Bonjour à tous, ici Ventina sur MetaLife. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être avec Jens Hauser. Bonjour Jens. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Alors, je suis commissaire d'exposition franco-allemand, chercheur à la fois en art et en médecine à l'université de Copenhague au Danemark.
Ouais.
Et je suis aussi chercheur associé avec la Michigan State University aux États-Unis.
Oui, alors d'abord, peut-être qu'on pourrait commencer par expliquer les raisons de ta présence ici. Tu es venu nous rendre visite ici à Dallas, mais en fait, tu as organisé une exposition en Californie.
En fait, Dallas se trouve exactement entre la Californie et Michigan.
Ouais.
Donc, à Michigan, je vais parce que pendant ces périodes de 3 ans, on a réussi à mettre sur pied une résidence d'artiste, donc art et sciences à la Michigan State University. Et je viens effectivement de la UCI, donc la University of California, Irvine, où je viens d'organiser une exposition qui s'appelle Wetware, Art, Agency, Animation, qui peut être la première exposition sur le sol américain où effectivement il n'y a que des œuvres qui sont en fait issues de pratiques artistiques prenant en fait comme moyen d'expression la biotechnologie le plus actuel.
Et quelle est la connexion avec, tu disais, une exposition qui date des années 70 qui s'appelait Software, organisée par Jack Burnham?
Alors, Jack Burnham, en 1970, a effectivement organisé cette exposition au Jewish Museum de New York, qui s'appelle Software, où effectivement, quand on lit aujourd'hui donc, l'introduction, on est complètement bluffé par l'actualité de ce propos, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction entre l'artiste, le technicien, le scientifique. Donc, il y a déjà une espèce de prédiction de l'hybride, de pratiques hybrides. Et à la fois, il prétend déjà en 70 qu'effectivement, c'est parce qu'on manque encore de connaissances biologiques sur le corps humain, on a encore justement cette distinction de parlant même de hardware et software en parlant en fait du corps humain. Alors qu'aujourd'hui, le wetware est la suite logique à partir du moment où effectivement même la vie artificielle, en tant que discipline à la fois scientifique et très prisée par des interprétations artistiques, a en fait basculé vers une pratique de pratique wet, donc de pratique de laboratoire proprement dit.
Ok. Moi, l'aspect qui me paraît intéressant dans tes écrits, a attiré mon attention, c'est que tu parles souvent en anglais de staging aliveness, de mise en scène du vivant, quoi. Alors du coup, j'aimerais t'interroger sur la dimension performative de ces objets, le rapport à la théâtralité, à la performance en général. Et je voulais commencer par te demander pour toi. Hier, dans le séminaire de Roger Malina, on était revenu un peu sur ces notions, mais est-ce qu'en français, tu pourrais encore nous redire quelle est pour toi les 4 déclinaisons de la performance et que tu appliques au bio-art en particulier?
Alors, je pense que puisque c'est un art qui a affaire avec des processus du vivant, tout en se plaçant dans le système du vivant même, effectivement, cela implique l'emploi des technologies. C'est pour ça que je parle de mise en scène, parce que ce n'est pas le vivant en tant que tel qu'on recontextualise tout simplement. Donc, il y a une intervention technique, donc qui est la base justement du travail d'artiste. Ceci mène, à mon avis, à un développement de la notion de performance et de performativité, tout en remplaçant en fait la notion du corps présent encore très fortement dans le body art, dans l'art de la performance tel qu'on connaît, où il est en fait question d'un corps humain mésoscopique à notre échelle, donc un corps qui bouge en gros, et qui travaille sur sa biographie et sur sa propre chair. Alors qu'il y a une extension possible que j'essaie de cerner avec le néologisme micro-performativité, dont je parle depuis certaines années, qui effectivement a pour but de relocaliser les actions ou les fonctions à l'intérieur de ce corps mésoscopique et d'aller plus en fait au corps microscopique, c'est-à-dire des séquences génétiques, les molécules, les organes, etc., sur lesquels le performeur peut aussi intervenir. Ça fait notamment sens quand on regarde effectivement qu'on est face à un basculement de l'art de la performance à de la performativité en art proprement dit. C'est-à-dire que même des objets esthétiques qui ne sont pas forcément des performances deviennent performatifs, procédurales. Et là, je rejoins la deuxième partie de la question, parce que je m'appuie un peu sur les écrits très intéressants à ce propos de Chris Salter dans son livre Entangled, où effectivement il regrette qu'effectivement dans l'histoire de la performance, on a beaucoup éclipsé des années 20, des années 30, où la performance, la technique de théâtre était aussi justement déjà toujours liée à de la technicité. Et de que le performance art tel qu'on le connaît des années 60 et 70 a éclipsé justement la dimension technique. Alors donc aujourd'hui, on est face à quatre modalités donc de performativité qui s'ajoutent. La première étant effectivement le fameux de John Austin, donc speech act theory, donc
Langage.
langage, quand dire c'est faire, hein, donc le côté programmatique, c'est-à-dire que je ne fais usage de langage pas que pour décrire un objet, mais en fait, il y a aussi une capacité d'action à travers le langage. Ça déclenche quelque chose matériellement dans le monde réel. Donc, deuxième catégorie serait effectivement le gender theory, donc Judith Butler, etc., donc, qui prétend effectivement que le corps actuel tel qu'on le connaît sont effectivement de construction, ils ne sont pas biologiquement donnés. Troisième volet, c'est effectivement l'anthropologie, ou aussi qui est appropriée dans le monde du théâtre, notamment de Richard Schechner, mais aussi de Victor Whyte-Turner, l'anthropologue écossais, qui effectivement font un pas en avance qui est très important, c'est-à-dire qu'on n'étudie pas que la performance, mais on utilise la performativité comme méthode d'observation. On rentre dedans, dans les interstices, et en fait, on suit de l'intérieur justement cette.
La performance ici devient médium.
C'est ça. Et le quatrième aspect, effectivement, c'est aussi l'usage des analyses performatives en sciences. On pense à la Walger Tour, à la Tour, des études de laboratoire dans la sociologie des sciences, où effectivement, on commence à s'intéresser à comment, en fait, de manière performative, la connaissance est générée. Et donc, on commence à déconstruire le processus même avec cette méthodologie, justement, de la performativité. Donc, tout ça est très important quand, effectivement, des objets esthétiques dont on parle sont à la fois des objets techniques, sont des objets du corps, mais du corps, effectivement, qui effectivement change d'échelle. Et ça peut changer d'échelle à la fois vers le microscopique, mais aussi vers le macroscopique quand il s'agit effectivement de corps, des essaims, des écologies en large.
Ok, merci beaucoup. Moi, je te posais la question parce qu'il y a aussi une autre. Enfin, moi, j'avais lu le livre qui s'appelle Ne pas jouer avec les choses mortes, publié par La Villarson, édité par, je crois, Éric Mangion. Et Marie de Brogerolles, qui, eux, avaient inscrit l'histoire de la performance dans une autre. L'avaient retracée un peu différemment. Ils partaient donc de cette. De l'école américaine, de ce que Michael Friedman dénonçait dans l'art minimaliste, la présence scénique et théâtrale des dispositifs installatifs. Et du coup, eux, ils la traçaient, enfin. L'histoire de la performance évoluait de telle sorte qu'elle se retrouvait inscrite jusqu'à inscrite dans les objets. Donc, elle cessait d'être simplement mouvement, action, dispositif, scénographie, mais elle devenait l'objet lui-même. Et il y avait une expo, je crois, au MACBA à Barcelone qui s'appelait A Theater Without Theater. Donc, du théâtre sans théâtre. Mais bref, cette histoire de la performance comme presque du point de vue archéologique, ou j'ai oublié le nom exact qu'ils employaient, mais l'idée, c'est que l'objet lui-même devient en sorte performatif. Et quand je te lis et que je vois des objets comme Pigeon d'or, ou Pigeon d'or, donc c'est ce pigeon qui est, comment je peux l'expliquer simplement? qui, au lieu de faire des crottes, produit du savon, quoi, grosso modo, parce que son microbiome est génétiquement modifié, ou Bacterial Radio de Joe Davis, où là, il renverse le processus de création habituel dans l'art biotechnologique. Bref, je me demandais si toi aussi, tu allais jusqu'à étendre cette performativité jusqu'aux objets eux-mêmes. Et est-ce que des objets en eux-mêmes, les objets que produit le bioart, sont des objets performatifs de ce
point ? La notion d'objet est un peu bizarre là-dedans, parce qu'il peut s'agir de sujets.
Oui.
Parce qu'effectivement, quand on parle des organismes, on a plutôt affaire à des sujets, même si ce ne sont pas des objets humains. Mais je suis d'accord avec cette extension de la notion de performativité, y compris vers le non-vivant. C'est-à-dire que, bon, d'une part, il y a ce que la Tour et d'autres en fait dénominent le parlement de choses. Reinberger parle de système expérimentaux, c'est-à-dire que l'agentivité, la qualité d'agent, n'incombe pas uniquement à des sujets en fait humains qui contrôlent une expérimentation. Ouais. Dans ce sens, effectivement, on peut parler justement de l'extension de la performativité à des objets.
Ouais.
Maintenant, bon, ça va de pair aussi avec des développements philosophiques récemment rencontrés par Wyron Matter, Jane Bennett, etc. Donc, effectivement, la matière qui devient un acteur, qu'on le voit dans le spectacle de Ingvardsson, l'artiste danseuse danoise, mais qui fait danser en fait des matériaux. Donc, il y a une espèce de performativité inhérente, je pense, qu'on commence à saisir aussi parce que justement, on veut décentraliser en fait le rayon d'action. On ne veut plus que ça soit uniquement sous notre contrôle et c'est très en face aussi avec tous ces débats. Qu'on a actuellement sur l'anthropocène, sur les effets technologiques anthropogènes, etc., aussi sur la responsabilité. Donc, je pense qu'on est en train de se poser, à travers ces pratiques artistiques en général, la question de qui est responsable pour quoi, comment changer et qui est acteur.
Ok. Bah, écoute, je pense que ce serait une bonne conclusion pour ce podcast, parce qu'il faut qu'on te libère. Merci beaucoup.
Merci pour ton intérêt.